Arracher. Vivre. Je veux vivre. La vie tient à un fil, à mon fil collé sur la coque de ce bateau. Le vent qui essaie de me décrocher, je tiens le coup. Je n'aurais jamais cru pouvoir m'éloigner aussi loin, de voguer dans le vent. Je suis habitué de me laisser percer par le courant, mais ce courant est hostile. Je me dessèche. Ma vie semble impossible. Quelle est cette étendue d'eau? Lueur d'espoir, lueur de vie. Je me décroche du bateau et me laisse porter par ce nouveau courant. Je reprends ma vie, malgré moi.
You know, I feel like people have a lot of like hatred almost to like invasive species and this like want to like, you know, they're the enemy. I don't have that same sort of negative bias, though they're almost like it's a neutral thing.
Yeah.
But I have more of the protection aspect and to the native species. Mm-hmm. Anyways, so I know that I'm not in bias in terms of like we must remove in that enemy aspect when I see invasives, but I also don't have that same like must protect and support invasive species.
Fragment et propagation.
Fragment and spread.
Représentant par Canada.
Le myriophile à épi est certainement très commun sur le canal Rideau, comme il l'est dans beaucoup de cours d'eau de l'est de l'Ontario. C'est une plante très difficile à contrôler à ce stade parce qu'elle est très envahissante. Elle peut aussi se propager par fragments, ce qui signifie que si elle n'est pas bien contrôlée, plus on essaye de l'enlever, plus elle risque de se répandre. En ce moment, nous la considérons naturalisée. À ce stade, ce serait impossible de l'éliminer complètement.
Parks Canada representative. Invasive exotic species come from elsewhere in the world. They're almost always introduced by humans in one way or another. In the case of Eurasian water milfoil, it was probably introduced on a boat's hull or through fragments carried in ballast water. Many of our invasive aquatic species arrived here the same way, aboard large ships coming from different continents. The plant takes root and establishes itself in these new waters. Then small fragments get picked up by boats traveling between waterways, and that's how it starts to spread.
Fragments de connaissance.
Knowledge fragments.
Représentant par Canada.
Les données constituent le premier grand enjeu. Le personnel de terrain couvre la voie navigable, mais c'est un très vaste territoire, ce qui est difficile à couvrir. Donc, on n'a pas de portrait complet de ce qui pousse dans tous les secteurs entourant le canal Rideau.
Actually, eDNA is a new up-and-coming method of data collection that allows us to detect invasive species by testing the water for tiny particles. Essentially, you take a water sample from the body of water and test it for traces of specific species. If the results come back positive, then you know it's worth investing time and resources into searching for it on the ground. Marina Torreblanca Alari, biologiste de conservation à la Commission de la Capitale Nationale.
Mais nous, on n'est pas porté nécessairement à contrôler le myriophile à épi encore, parce que c'est très coûteux. Puis justement, on n'a pas d'études claires qui démontrent que ça a un effet néfaste définitif sur l'écosystème. On a des hypothèses, mais c'est pas prouvé, puis il n'y a pas beaucoup d'études encore sur le sujet. On sait que c'est très dérangeant pour les activités récréatives, comme la baignade. Fait que même si on sait qu'il y a un effet, on n'a souvent pas l'argent. Par contre, c'est les universités qui conduisent les études. Ça va vraiment avec l'intérêt des chercheurs. Donc, s'il n'y a pas de chercheurs qui travaillent nécessairement sur le myriophile à épi en particulier, mais ça va être long avant qu'on obtienne des données.
Heather Karuba, Associate Professor, Department of Biology, University of Ottawa.
It's changed a lot over time, but I want to ask questions that will be useful. And right now, especially for restoration, that's the thing that I find really interesting and that I think we could have a really big impact. So it's like, what questions can we ask that would be helpful and that these organizations, like you said, that might not have the budget, might not have the ability to ask those questions. Mm-hmm. So we really do want to know, like, yeah, how beneficial is invasive species management or this role of introduced species? Because we have more flexibility to do that and we can ask that. So that's really what motivates a lot of our questions these days. And so we've been trying to work, and I say try because it's a bit tricky with NGOs that have, they're really busy or they're small, they don't have time to necessarily work with us, but to figure out, what are their knowledge gaps, what would be helpful for them to know, and how they do their jobs. So that's, we're hoping, anyways, that's kind of what motivates our research.
Fragment administratif.
Administrative fragments.
Par exemple, pour le myriophile à épi, c'est assez compliqué. Nous, on est en terre, le parc de la Gatineau est en terre fédérale, donc c'est les lois fédérales qui s'appliquent. L'eau, de toute façon, c'est normalement le fédéral qui le gère. Donc, on devait obtenir un certificat d'autorisation du ministère de Pêche et Océan Canada pour pouvoir faire notre projet de myriophile à épi. Mais en plus de ça, si c'est une municipalité qui est pas en terre fédérale, elles doivent aussi obtenir un certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique. Ça devient vraiment compliqué parce que c'est pas des applications. Tu sais, moi, je fais ça dans dans le cadre de mon travail, des applications pour obtenir ce genre d'autorisation-là, mais c'est pas accessible à n'importe quelle municipalité ou n'importe quelle comme association de résidents de lacs, par exemple. Chaque municipalité, MRC, palier de gouvernement a ses propres priorités, puis sont souvent pas en accordance avec les voisins, par exemple. Sauf que en laissant à côté, je veux dire, la ligne, la plante, elle suit pas la ligne, elle traverse quand même sur nos terrains. Mm-hmm. Fait que c'est comme un travail à refaire à chaque fois. C'est un choix qu'on fait aussi de conserver certaines espèces parce que, justement, on a perdu la bataille, puis là, il faut juste vivre avec.
Wabamako, a.k.a. Shannon Chief, Knowledge Keeper, Anishinaabe Algonquin Nation.
At the part today, we face policies, we face all these different, what we call obstacles, just to get to a certain thing or, you know, there's a big difference. There's a lot of growth on our end when it comes to technology. There's a lot of different ways of going about things, and it's more challenging, I find, compared to the old days. But in the old days, our ancestors are ready to voice their opinions or even speak on so many issues long ago. But today we have more of that treaty, but it's very challenging.
All the complexity of administration of the government that slows things down.
Yes, I think that's one of the biggest barriers. Is this getting true? For them to understand, but they have to be educated too. They have to understand, the world is great right now, but it could be better.
Fragments et priorités.
Priority fragments.
Dans le fond, oui, c'est deux choses. Soit c'est l'impact connu, comme je le disais précédemment, la lière officinale a un effet direct sur les mycorhizes, un effet négatif. Donc ça devient, tu sais, finalement, sans mycorhizes, ta terre est stérile. Il n'y a rien qui pousse. Donc ça, c'est comme c'est une priorité. En même temps, c'est une priorité, mais on n'a pas d'argent pour le faire. on la regarde aller. L'autre chose qu'on regarde, c'est si c'est dans un habitat essentiel ou un habitat critique d'espèces en péril. Ce qui est intéressant de travailler avec les espèces exotiques envahissantes, c'est vraiment un domaine qui est très expérimental. Souvent, quand il vient le temps de contrôler les populations, c'est parfois de l'essai à erreur. Chaque écosystème est différent, puis peut-être qu'il y a un endroit, une technique a super bien fonctionné, alors qu'un autre endroit, ça fonctionne pas, ça fait que c'est vraiment surtout de l'acharnement dans le temps. Parfois, ça peut prendre plus de 10 ans là, avant de dire qu'on a vraiment bien contrôlé une population. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment choisir nos sites.
Fragment.
Word fragments.
But again, as I've thought about the complexity of these systems, the nuances between all of these different classifications and different species and over different time and spatial scales, then certainly, it's evolved a lot. And thinking very clearly about the language I use in my scientific work and then when I'm talking about it with the public, it's definitely changed over time.
C'est évident que la lutte contre les espèces envahissantes, les espèces exotiques envahissantes, c'est une lutte qui est perdue d'avance. On ne peut pas éradiquer une espèce. Ce qu'on peut faire, c'est la contrôler pour pas qu'elle soit dominante dans un environnement dans lequel elle n'est pas native de l'écosystème, pour ne pas nuire aux espèces qui sont indigènes, finalement. Déjà là, tu sais, au sein d'un même palier de gouvernement, il n'y a pas tout le temps les mêmes priorités. Fait que c'est comme, c'est impossible, je pense, de s'harmoniser parfaitement.
Conscience et connexion.
Conscience and connections.
Et je pense que, puis là, je suis biologiste de conservation. Il faut comprendre que mon travail, c'est de protéger les espèces en péril. Puis les espèces en péril, une des menaces, bon, c'est oui, la perte d'habitat, puis aussi les espèces exotiques envahissantes. Les espèces exotiques envahissantes sont arrivées à cause de l'humain. Donc, dans mon sens, la justice, c'est plutôt pour l'espèce en péril qui voit son habitat se dégrader à cause de l'arrivée des espèces exotiques envahissantes. Et donc, que c'est comme un peu notre devoir, nous, les biologistes de conservation, de pouvoir avoir un habitat qui n'est pas exempt d'espèces exotiques envahissantes, mais qui est contrôle, fait qui réduit l'impact que ont ces espèces-là sur l'écosystème naturel. Mais c'est certain qu'il y a tout plein d'autres disciplines qui peuvent avoir leur vision. Puis je pense que les scientifiques ou les personnes qui travaillent dans le domaine de la conservation sont ouverts, évidemment, à toutes les propositions, parce que je pense que notre plus gros problème, c'est pas nécessairement la volonté de vouloir bien appliquer le concept de justice ou le concept de protection ou de conservation. Notre plus grand ennemi commun, c'est vraiment le capitalisme et le manque d'argent, parce que la conservation, c'est pas payant pour personne, malheureusement, sauf les espèces qu'on essaie de protéger.
Wabamako, aka Shannon Chief, Knowledge Keeper, Anishinaabe Algonquin Nation.
How we're going to provide, you know, like for the next 100, 200 years, like we don't have enough trees to provide for the whole world for the next 200 years. By then, they'll be all gone, no? If we keep moving into that pace, if we keep mining, thinking that this is going to save the technology and everything, then we're only destructing the land and the climate will only get warmer and everything and the planet will dry off, kind of thing. Mm-hmm. If we keep moving into that same direction, you know?
Yeah.
Well, climate change is really a reset just waiting to happen. That's just something I gathered from a knowledge keepers gathering at one point, and getting into details, what they meant is like, yeah, it's going to change. There are things that are not going to be in our control, like new plants, new species, new insects, all that is going to come for the next, 200 years. The governance is going to change. The world is going to change. How things are done is going to change, you know, like every 100 years that happens. Yep. And that's a lot of going back to the land, use the land, occupy the land, build on the land, do all this project on the land, build gardens, all this kind of stuff. And I think helping them to become self-determining is probably the best gift that you can give back to the Anishinaabe people of the territory, except when we first arrived.
Yeah.
For us, that's a new era, because mm-hmm. it's a big change. Now we're learning to coexist. We're learning to understand the land, how it was like to live here. How did we live here? How did we go about living with nature and how we treated it and everything? So a lot of that is still has to be taught, given after hundreds of years went by, you know? Now, because there's so much extractions that took place, now we have climate change because of all that.
Yeah.
So there were treaties made to understand between nations of, you know, taking it easy on environment, that kind of stuff, this wouldn't happen. So now what climate change is happening, that tells you, like, there's a new world that's going to come. And how that world is going to look like really depends how well we're going to work together, nation to nation. How we're going to provide, you know, like, for the next 100, 200 years. Like, we don't have enough trees to provide for the whole world for the next 200 years.